Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Quel bilan tiré du sommet du G7 organisé ces trois derniers jours à Biarritz? Chacun est reparti chez soi. Le président français a fait le service après-vente à la télévision hier soir encore. Mais pour quel résultat? Pas ou peu de brouille diplomatique. Un pré-accord sur la taxe GAFA. Échec ou succès et pourquoi? Nous balayerons l'ensemble de ces questions dans ce journal. Dans un instant également, nous reviendrons sur les propos d'Emmanuel Macron hier soir. Il dit sa préférence pour un calcul des droits à la retraite lié à la durée de cotisation plutôt qu'à l'âge de départ. Explications et réactions à suivre. Le chef de cabinet du président brésilien s'exprimait il y a quelques heures à peine. Le Brésil, dit-il, rejette l'aide proposée par les pays du G7 pour combattre les incendies en Amazonie. Le chef de cabinet de Jair Bolsonaro conseille dans le même temps à Emmanuel Macron de s'occuper, je le cite, de sa maison et de ses colonies. Nouvelle attaque verbale, alors que le président français, après le sommet du G7 à Biarritz, avait annoncé une aide financière de 20 millions de dollars pour les pays de l'Amazonie. La forêt, je le rappelle, brûle depuis le début du mois. Des milliers de feux s'y sont déclarés. Le G7 est donc terminé à Biarritz. Les dirigeants sont repartis, notamment Donald Trump. Il aura passé 2 jours et demi en étant finalement plutôt conciliant. On le souligne outre-Atlantique, Grégory Phillips.
C'est peu dire que le premier tweet post-G7 de Donald Trump était redouté. L'an dernier, au départ du Canada, à bord de l'avion présidentiel Air Force One, le président américain avait laissé éclater sa colère et refusé d'apposer sa signature sur le communiqué final. Là, son premier message sur Twitter est beaucoup plus conciliant. Une vidéo d'une minute intitulée « Merci la France ». Musique grandiloquente, montage hollywoodien, mêlant images de Biarritz et séquences où l'on voit Trump entouré de ses homologues, chefs d'État et de gouvernement. Le Wall Street Journal utilise d'ailleurs ce terme conciliant, notant que sur l'Iran, sur la Chine, sur les GAFA, Donald Trump avait largement baissé d'un ton entre le premier jour du sommet et le dernier, et le site internet Politico note qu'il y aura bien un G7 l'an prochain aux États-Unis, à Miami, certes dans l'un des golfs appartenant au président, mais on aurait pu craindre que l'échec de 2018 sonne la fin de ce genre de réunion. Sans surprise enfin, sur Fox News, l'éditorialiste Stuart Varney est enthousiaste. Notre président a dominé cette rencontre comme aucun dirigeant ne l'avait fait auparavant.
Alors est-ce Donald Trump ou Emmanuel Macron, le président français, qui tire vraiment son épingle du jeu après ce sommet? Voici le bilan cette fois vu de France. Là aussi, on souligne qu'il n'y a pas eu de coup d'éclat ni de brouille diplomatique. Et c'est peut-être ça la vraie victoire française, Bertrand Galichet.
Comme s'il naviguait entre les rochers de Biarritz, Emmanuel Macron a pour l'essentiel évité les écueils diplomatiques du week-end. Annoncé comme le G7 de la discorde, le sommet s'est terminé sur un constat d'unité. Même Donald Trump, partenaire redouté, n'a rien trouvé à redire à la venue spectaculaire en marge du G7 et à l'invitation de la France du ministre iranien des Affaires étrangères. Mieux, le président américain laisse entrevoir la possibilité d'une rencontre avec son homologue iranien Rohani. Le G7 de la Côte Basque a aussi confirmé la promesse d'un accord sur la taxation des GAFA dès l'an prochain via une refonte de la fiscalité dans l'OCDE. La méthode Macron, multilatéralisme et divergence assumée, pourra être évaluée à l'aune des résultats obtenus au prochain sommet en 2020 aux États-Unis. Le président français peut cependant avoir 2 regrets. Boris Johnson n'a rien lâché sur le Brexit et les pays hors G7, africains, asiatiques ou sud-américains, invités pour élargir le débat, n'ont guère été entendus.
Voilà pour le bilan. Bertrand Galichet évoquait à l'instant la taxe GAFA, sûrement supprimée en France si l'OCDE se met d'accord pour taxer les grosses entreprises du numérique. Emmanuel Macron évoque un très bon accord avec les États-Unis, mais aurait-il en réalité cédé face aux menaces américaines, Isabelle Chaillot?
Avec cet accord, la France compte en tout cas éviter les sanctions brandies par Donald Trump, à savoir des droits de douane à 100% sur le vin français. Le prix à payer est donc la disparition annoncée de la taxe GAFA, pourtant adoptée en juillet dernier. La France la retirera, mais seulement lorsque les discussions internationales en cours à l'OCDE sur la taxation du numérique auront débouché sur un accord. Conséquence, si cette taxe GAFA version OCDE est moins élevée que la taxe française, alors le fisc remboursera la différence aux multinationales concernées. La taxe GAFA mornée, mais en attendant cet accord à l'OCDE, elle va bien s'appliquer en France et l'État espère toujours récupérer 500 millions dès cette année. Quant aux États-Unis, ils ont dû eux aussi faire évoluer leur position en acceptant le principe d'une taxation des géants du numérique qu'ils refusaient depuis des années. Recul français ou non, l'épisode met surtout en lumière les divisions des pays européens incapables de s'accorder sur une imposition commune des GAFA.
Merci Isabelle Chaillou. Comme un air de déjà-vu, un universitaire australien est soupçonné d'espionnage en Chine. Il a été arrêté selon Canberra il y a plusieurs mois maintenant, sans chef d'inculpation. Son état de santé aujourd'hui est jugé inquiétant. En bref, encore la mort de l'ancien patron et figure historique du constructeur automobile Volkswagen. Ferdinand Piëch est mort à l'âge de 82 ans. L'ingénieur allemand, resté plus de 20 ans à la tête du groupe, avait hissé Volkswagen parmi les premiers mondiaux de l'automobile. Nous faisions en début de journal le bilan du G7 organisé ces trois derniers jours en France à Biarritz. C'est à l'occasion de ce bilan sur le plateau de France 2 hier soir qu'Emmanuel Macron s'est exprimé sur des questions de politique intérieure. Il dit ainsi vouloir éradiquer progressivement la grande violence en France, tout en souhaitant changer la manière d'assurer la sécurité pour, dit-il, réduire le nombre de blessés. Une réaction aux gilets jaunes mobilisés jusqu'au printemps dernier. Le chef de l'État s'est également exprimé hier soir sur la réforme à venir des retraites et il a pris position.
Ce que je veux, pour le dire en des termes très simples, c'est qu'on fasse deux choses. Un, que notre régime, quand il rentre en vigueur en 2025, il soit équilibré financièrement. Et deux, que ce soit juste en termes de cotisation. Je préfère qu'on trouve un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge. Parce que si vous avez un accord sur la durée de cotisation, quand vous rentrez tard dans la vie professionnelle, vous finissez plus tard, mais généralement c'est que vous êtes rentré tard parce que vous avez fait des études. Et quand vous commencez tôt, vous cotisez plus longtemps, donc vous partez plus tôt. Ça me semble plus juste.
Voilà, plus juste pour le chef de l'État et à l'encontre tout de même de ce qu'avait officiellement préconisé le haut commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, c'était à la mi-juillet. Que vont en penser les syndicats? Certains avaient déjà annoncé une mobilisation pour le mois de septembre. Philippe Crevel est économiste, il dirige le Cercle de l'épargne et il analyse pour nous ce matin les possibles réactions des partenaires sociaux.
C'est sans nul doute une ouverture assez forte vis-à-vis des partenaires sociaux. En règle générale, les syndicats sont plutôt favorables donc à la notion de durée de cotisation, car comme l'a dit le président de la République, ça permet à ceux qui ont commencé à travailler tôt de partir plus tôt à leur retraite. Et donc ça, évidemment, ça fait sens pour les syndicats à dominante donc ouvrière. En revanche, c'est vrai que le syndicat des cadres, à mon avis, sera opposé. La CFDT pourra y voir, on va dire, un signal comme quoi elle aurait été entendue. Et vis-à-vis de ses troupes, c'est évidemment important qu'elle puisse donc se prévaloir d'une concession de la part du chef de l'État et du gouvernement. Donc c'est évidemment une ouverture que fait l'exécutif vis-à-vis des partenaires sociaux.
L'économiste Philippe Crevel, il répondait à Julien Langlais. Il tend la main à l'adversaire potentiel. À 7 mois des élections municipales, le candidat désigné de la majorité pour la mairie de Paris propose à Cédric Villani de copiloter la campagne de La République En Marche. Benjamin Griveaux lui tend la main, à la fois, dit-il, sur le fond et sur l'incarnation. Cédric Villani, député de l'Essonne sous l'étiquette LREM, pourrait être tenté de lancer une candidature dissidente à la mairie de Paris. Nous venons de l'apprendre à l'instant, un vaisseau spatial Soyouz non habité transportant le robot humanoïde russe Fedor s'est arrimé à la Station Spatiale Internationale. C'est ce qu'annonce un commentateur de la NASA TV, la télévision de la NASA. Contact confirmé, arrimage confirmé, a-t-il dit il y a quelques minutes. Nous revenons en France, sur la Terre, avec la météo du jour et le temps va se dégrader ce mardi par le sud-ouest avec l'arrivée de pluie, d'orage dans l'après-midi. Du sud-ouest à la région parisienne, le ciel sera bien encombré en début de journée. Partout ailleurs, le soleil va dominer sous des températures qui sont toujours chaudes. Comptez ce matin 18 degrés à Lorient, 23 à Bordeaux, 27 degrés à Dunkerque, à Paris, Strasbourg, 28 à Lyon et à Nice. Ce matin, il fera entre 23 et 34 cet après-midi.